France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau débat sur le pouvoir présidentiel. Il y a un an, quasi jour pour jour, le président de la République Emmanuel Macron appuyait sur le bouton rouge de la dissolution. Il était 21h quand le pays a basculé dans un chaos politique, bloquant la machine parlementaire et laissant la nation sans cap. Depuis, seules 15 lois ont été promulguées à l'Assemblée nationale. 71% des Français jugent que c'était une erreur qui a coûté quand même 195 millions d'euros à l'État. Cette décision, que certains qualifient d'arme nucléaire, a été prise par un homme, dans la solitude du pouvoir. La Ve République lui confère cette prérogative, mais est-ce trop pour un seul homme? Vivons-nous dans une monarchie républicaine? Quelle est cette obsession française qui fait qu'en 2025, on recense déjà une vingtaine de candidatures pour l'élection de 2027? Le présidentialisme, cette exception française, est-elle en train de tuer la politique? Couper ou non la tête du président, évidemment, c'est une formule, mais on en débat jusqu'à 12h45.
France Inter. Le débat de midi. Paola Puerari.
Et ce débat sur la figure du président vous fait déjà beaucoup réagir, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous dire, eh bien, finissons-en avec l'élection présidentielle, voilà. Comme Sébastien. Merci. Nous sommes en 2025 et tous les politiques de ce pays n'ont qu'une chose en tête, 2027. Rachel, au contraire, est bien tentée par l'idée de retrouver des présidents comme on les aime. Mais où sont passés nos grands hommes politiques? Si, comme ces auditeurs, vous trouvez qu'il faut passer à la 6e République ou que vous voulez un homme fort à la tête du pays, vous réagissez évidemment sur l'application France Inter, vous nous envoyez une note vocale sur le WhatsApp de l'émission, comme Séverine, qui s'est enregistrée au 01 45 24 7000.
Je sais que les Français adorent avoir l'équivalent d'un roi, donc c'est souvent comme ça qu'ils ont placé leur président de la République. Tout cela fonctionnerait mieux s'il y avait uniquement le Parlement avec l'Assemblée nationale et le Sénat.
Et pour débattre, nous avons à cette table deux pourfendeurs du présidentialisme. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Philosophe libéral, auteur de Contre 1 aux éditions de l'Observatoire. Vous étiez pourtant porté candidat à la dernière élection présidentielle, mais c'était pour une bonne raison.
C'était pour l'abolir, oui.
Alors, Edwy Plenel, vous aussi, bonjour. Journaliste bonjour. Fondateur de Mediapart, vous avez publié Le Président de Trop aux éditions de La Découverte. Je crois que c'est assez explicite. Vous pensez que le monarque républicain est un poison, c'est ça?
Par rapport aux autres invités, j'ai une antériorité. J'allais dire que cela fait un demi-siècle que, par mon métier, par nos informations, je combats cette confiscation de la vitalité démocratique de notre pays. Et on en reparlera parce que ça concerne l'ensemble des familles politiques et notamment la gauche.
Voilà, donc deux pourfendeurs du présidentialisme qui sont deux contre deux défendeurs de la 5e. Anne-Charlène Bézina, bonjour.
Bonjour.
Constitutionnaliste, auteur de cette constitution qui nous protège aux éditions IXO, pour ou contre la 6e? Là, pour vous, il n'y a pas de doute, c'est la 5e.
Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est la 5e République. J'aimerais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on se prive d'un bateau qui flotte et qui fonctionne, même en temps de crise.
Et enfin, Paul Melun, essayiste, bonjour.
Bonjour.
Même si vous écrivez avec un monarchiste convaincu, et si le prochain président était un roi aux éditions Mareuil, eh bien vous ne voulez pas couper la tête du président?
Absolument pas. Moi, je crois beaucoup à la figure du président de la République, et je crois que, tout aussi paradoxal que cela puisse paraître, il incarne, il représente toute la nation dans ce qu'elle a de plus démocratique, puisqu'il en est la concentration, finalement, de la souveraineté populaire. Donc, je suis un fervent partisan de la 5e République, moi aussi.
Alors, on va imaginer une ligne d'arrivée 2027 et des dizaines de candidats qui sont déjà sur la ligne de départ 2 ans avant la course. C'est l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui a déclaré « Il y aura bientôt plus de candidats que de citoyens pour voter ». Est-ce que quelqu'un a une candidature à annoncer autour de cette table?
Moi, j'arrête.
Est-ce que vous comprenez, Edwy Plenel, eh bien, cette obsession pour l'élection présidentielle?
C'est l'obsession du pouvoir. Pour dire très clairement, le présidentialisme, c'est la confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul. Et quelle que soit la qualité de certains de ces présidents, qui parfois ont eu une pratique plus démocratique que leurs successeurs, je pense à De Gaulle qui a démissionné après un référendum, la vérité c'est que cela dévitalise notre vie démocratique. Vous voyez, on est un an après cette dissolution, le problème n'est pas tant la dissolution, au-delà du mécanisme et de l'irresponsabilité de cet acte, mais c'est surtout la suite. On a un président qui n'a tenu aucun compte du résultat des législatives, qui a continué dans dans une vision totalement solitaire, au point qu'il n'y avait pas de majorité, pas de gouvernement pendant 2 mois. Et tout ça a des conséquences sur la dépression de notre pays. Profondément, la démocratie, ce n'est pas simplement l'élection. La démocratie, c'est une justice indépendante, c'est une presse libre, c'est des contre-pouvoirs, c'est un équilibre. L'élection présidentielle, elle radicalise cette idée de confiscation de la démocratie par le vote, parce que c'est un seul, et ils sont tous, vous avez posé la question, et toutes parfois, mais plus des hommes, obsédés par cette idée d'être à cette place, qui est pour moi vraiment un chagrin, une tuerie, une misère démocratique.
Alors je vois un défenseur qui veut prendre la parole,
non,
Paul Melun.
Il y a un terme qui m'interpelle, je ne suis pas d'accord avec l'idée de confiscation. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, en 1962, elle est passée par un référendum. Et ce référendum, il a été accepté par 62% des Français. Notons qu'à l'époque, les sénateurs, une bonne partie de l'Assemblée nationale et le Conseil d'État étaient opposés à cette Absolument. Élection du président à suffrage universel direct, alors que le peuple de France, lui, y était favorable. Donc, c'est passé par un processus on ne peut plus démocratique. Le référendum est l'acmé de la démocratie dans une démocratie libérale comme la nôtre. Donc, quand j'entends dire parfois que le général de Gaulle aurait imposé cela de nulle part, non, au contraire, en 62, ça résulte véritablement d'un choix populaire. Et je pense qu'aujourd'hui encore, si ce choix devait être de nouveau posé, les Français consacreraient le principe du président à l'élection au suffrage universel direct. Donc, je ne vois en tout cas aucune sorte de confiscation démocratique, bien au contraire.
Mais c'est une exception française quand même, Anne-Charlotte Mézières.
Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le terme de présidentialisme, parce que bon, je vais faire ma juriste de service, je définis souvent les termes du sujet avant de réfléchir, mais le présidentialisme, c'est une dérive du régime présidentiel, c'est-à-dire en fait c'est le pouvoir d'un seul, comme vous l'avez dit, c'est la confiscation totale de tous les pouvoirs aux mains, c'est souvent les régimes d'ailleurs africains, américains du Sud qui ont donné en fait au départ cette définition constitutionnelle du présidentialisme qui n'est jamais dans une constitution puisque c'est un dévoiement précisément. Je suis pas sûre que la Ve République soit un régime présidentialiste. En réalité, le style de certains présidents est un style présidentialiste et certains n'ont pas respecté les contre-pouvoirs et certains ont parfois des habitudes de gouvernement qui peuvent choquer les contre-pouvoirs, la démocratie en
tant que telle. Par exemple, Emmanuel Macron ?
Pas toujours. Il me semble que cet exercice de la dissolution, on aurait tort de s'en passer. La reine d'Angleterre, qui est aujourd'hui un roi, peut dissoudre l'Assemblée sans que ce soit conçu comme une forme de confiscation du pouvoir. Tout est dans la manière de faire. Et je ne suis pas sûre que la Constitution soit finalement le lieu pour définir des manières de faire. Il y a, dans le message d'une auditrice que vous nous lisiez, une question de grands hommes, de style, de manière d'incarner. Donc moi, je me demande jusqu'à quel point, finalement, si on devait abandonner cette culture du chef, on ne se priverait pas aussi de la possibilité de faire émerger des Mendès, par exemple, qui disaient, justement, la démocratie, ça n'est pas...
Et quand on regarde les sondages du Cevipof, ils vont dans votre sens, Gaspard Koenig. Les Français veulent un homme fort.
Justement, Mendès France s'opposait immédiatement au régime gaulliste, exactement pour cette raison, pour l'idée que chercher un homme fort, chercher un chef... Voter directement pour le pouvoir exécutif, c'est le stade infantile de la démocratie. On ne dit pas que ce n'est pas la démocratie, mais on dit que c'est un homme, un peuple, avec une vision, qui est une vision très gaullienne d'ailleurs, d'un peuple homogène. De Gaulle, remontant les Champs-Élysées, écrit dans ses mémoires « Si vous saviez, Français, comme vous êtes tous pareils ». Et c'est vraiment sa vision du pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours détesté le Parlement. Dès 36, quand il essaye de vendre ses réformes à Léon Blum, on voit à quel point il est crispé par les luttes parlementaires. Et l'acmé de 62 est un long processus réfléchi chez De Gaulle pour concentrer la souveraineté entre les mains d'un seul, parce qu'il se sent de manière complètement mystique. C'est très clair dans ses mémoires, quasiment l'élu du peuple. Mais il faudrait distinguer quand même la 5e et l'élection du président au suffrage universel. Parce que la 5e République de 58 est un régime parfaitement parlementaire, où le président de la République est l'arbitre entre les partis, comme un peu le président allemand ou le président italien. Et je dirais, j'ai pas de problème avec ça. La vraie rupture, elle est en 62. Et il faut se rendre compte, parce que maintenant on y est tellement habitué, et vous citez les sondages, on n'ose plus penser un monde sans élection présidentielle. On a l'impression que c'est ça qui nous donne du pouvoir. Il faut comprendre qu'à l'époque, non seulement c'est condamné par l'ensemble des contre-pouvoirs, dont effectivement le président du Sénat qui parle de forfaiture, c'est d'ailleurs là-dessus que tombe le gouvernement Pompidou, qui est censuré exactement là-dessus, parce que depuis presque un siècle, la France, avec évidemment la parenthèse tragique de Vichy, vit en régime parlementaire de 1870 à 1962. C'est la plus longue période de l'histoire de France. Or, la Troisième République, c'est la plus longue période de stabilité institutionnelle après la Révolution française. Et en revanche, le reste du monde était 19e, 20e siècle, de la démocratie parlementaire, à quelques exceptions près. Et c'est De Gaulle, en fait, qui enclenche un tournant mondial. C'est après De Gaulle que Senghor fait la même chose en Afrique, que le suffrage universel se répand dans l'Afrique qui se décolonise, dans les pays du bloc soviétique après la chute du mur, en Amérique latine après la chute des dictatures militaires. Et maintenant, nous sommes dans un monde présidentialiste, avec des hommes forts, des armes nucléaires, des grands dialogues de chefs d'État. Je suis persuadé que si nous étions dans un monde parlementaire, il serait beaucoup plus pacifique, beaucoup plus stable, avec une pratique de la délibération qu'on a complètement oubliée.
La question, vous dites qu'on est dans un monde instable, un monde guerrier, un monde où effectivement...
Parce qu'il est présidentialiste.
Il y a des plaques qui bougent tout le temps. Est-ce qu'il ne faut pas que la France parle d'une seule voix? Déjà, on voit bien que l'Union européenne a du mal à s'accorder à 27. Est-ce qu'il ne faut pas un homme qui dise oui, on réarme pour aider l'Ukraine ou pas, Paul Melun?
Mais précisément. Et c'était une des faiblesses de la Troisième République finissante de ne pas avoir su, lorsqu'Hitler devient chancelier en 1933, de ne pas savoir. Oui, mais après, dans l'entre-deux-guerres, elle a été incapable d'offrir à la France l'armement que De Gaulle, alors jeune secrétaire d'État, réclamait avec Paul Reynaud, sur le gouvernement de Paul Reynaud. Et à cette époque-là, on s'est désarmé et on n'a pas su mettre en place précisément par ce régime parlementaire les contre-forces qu'il fallait. Et aujourd'hui, dans un monde aussi instable que le monde que nous traversons aujourd'hui, avec des Poutine, avec des Xi Jinping, avec un Donald Trump qui se prend pour le shérif du monde, que voulez-vous que l'on fasse, nous? Comme à la Commission européenne, avec des délibérations à n'en plus finir, où il n'y a aucune stabilité d'ailleurs, du reste, avec cette espèce de gigantesque Parlement.
Excusez-moi, mais le Parlement européen est beaucoup plus démocratique que le Parlement français.
Européen, non, absolument pas. Le Parlement européen, les parlementaires européens n'ont pas l'initiative de faire la loi. Ce qui montre bien, je voulais répondre à ça, c'est intéressant, ce qui montre bien que le Parlement européen n'est pas véritablement une enceinte aussi démocratique que ne peut l'être le Palais Bourbon. Maintenant, qu'il y ait des adaptations, je ne veux pas déflorer ce qu'on va se dire après, mais qu'il y ait des adaptations à la Ve République, je n'en disconviens pas. Mais admettons tout de même que, en termes de stabilité dans un monde instable, nos institutions nous protègent, la Ve nous protège de 58, et également notre président de la République.
Edwy Plenel, est-ce qu'on a besoin, on voit bien que la France a du mal avec la culture du compromis, est-ce qu'on a besoin dans un temps d'instabilité d'une voie ferme, stable et rapide?
C'est l'envers du compromis, ce que vous décrivez. Et Caspar Koenig a entièrement raison de rappeler que le Parlement européen, quelles que soient les limitations faites par l'exécutif à son pouvoir, c'est un lieu d'élaboration, c'est un lieu de discussion. On a cité Pierre Mendès-France tout à l'heure, c'était un homme de cette culture-là. Il disait la démocratie, c'est une culture, c'est un respect de l'adversaire. Et là, on a quelque chose qui s'est exacerbé, qui est une pathologie, j'en suis bien d'accord, de ce pouvoir personnel, qui est, je reprends une formule qui avait été employée quand début de la démocratie parlementaire, elle était par Engels, le compagnon de Karl Marx, enfin le camarade de Karl Marx, qui disait le crétinisme parlementaire, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'à partir du moment où ils sont élus, ils font tout ce qu'ils veulent, indépendamment de la société. Il y a un crétinisme présidentiel, il y a une bêtise, un éloignement de la société. D'un point de vue diplomatique, Emmanuel Macron, ces dernières années, c'est un désastre. D'un point de vue sanitaire, au moment de la gestion du Covid, dans ce côté comité de défense, et tout, c'était un désastre. Et donc, nous sommes dans un moment, parce que vous avez évoqué les hommes forts, le présidentialisme n'est pas que français. On se disait, tiens, aux États-Unis, pays du libéralisme politique, il y a check and balance, il y a le respect de l'indépendance de la justice, il y a le pouvoir du Congrès et tout. Qu'est-ce que vous voyez avec Monsieur Trump? Ben, vous voyez cette pathologie présidentielle. Il gouverne par décret, il piétine tout, et il décrète la guerre, etc. Donc, cette idée de l'homme fort, je termine juste, et pour moi, une sorte de retour à un âge primitif de la politique comme bien commun.
Votre réponse, Anne-Charlène Bézina.
Pardon, mais justement, il me semble que la Ve République n'est ni la Pologne ou l'Allemagne ou l'Autriche, ni finalement les États-Unis.
L'extrême droite gagnera la présidentielle, vous en apercevrez.
Il me semble que c'est encore deux choses très différentes aussi. Et j'ai peur qu'on confonde un peu tous les concepts. Moi, il me semble que la focalisation autour du suffrage universel est une erreur de compréhension du régime politique. Est-ce que le fait que le président portugais soit élu donne les allures de présidentialisme que nous avons
avons sur certains accents de la Ve République au Portugal, je ne le crois pas. Tout dépend évidemment du style et de l'incarnation et de la manière de faire, on l'a redit. Est-ce qu'on se sent mieux respecté dans une décision comme celle du chancelier allemand de considérer justement qu'il va y avoir réarmement et qu'on va revenir sur le mur de la dette, enfin sur la manière constitutionnelle de concevoir la dette qui est vraiment, on va dire, dans l'ADN des Allemands. Et pourtant, c'est le chancelier qui le décide, on le sait, il n'est même pas complètement maître de sa coalition. Mais c'est une décision qu'il a décidé d'incarner. Pareillement pour le Premier ministre britannique. L'idée qu'il y ait un homme qui décide, ça n'est pas tellement quelque chose qui est lié à la nature d'un régime plus parlementaire ou plus présidentiel. Ça dépend aussi des circonstances et du sujet. Et dans chacune des constitutions, au moment de la défense, au moment de l'unité, au moment de l'urgence, et prenons par exemple le Covid, où aussi bien dans les parlements allemands qu'italiens qu'espagnols, eh bien, on a conseillé des petites cellules exécutives qui ont pris les décisions à la place des autres. Donc, moi, je crois que ça n'est pas la figure du président de la République qui concentre forcément toutes les erreurs. Encore une fois, le président de la Ve République est normalement censé incarner l'équilibre de la nation. C'est-à-dire qu'il ne gouverne pas, c'est le Premier ministre qui s'en charge.
Alors, on va se demander pourquoi ils y pensent tous en se rasant les politiques. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous obsédés par cette élection présidentielle? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à un mandat unique? Par exemple, un septennat?
Efface tout.
C'était Yeli Yeli avec Nouba Galactica.
Le débat de midi. Paola Puerari sur France Inter.
De retour au débat de midi avec une question. Faut-il en finir avec la figure du président de la République tout puissant? Arrêter avec cette élection présidentielle qui semble rendre fous nos politiques. À la table du débat de midi, deux pourfendeurs du présidentialisme, le philosophe libéral Gaspard Koenig et le journaliste fondateur de Mediapart et de Vie Plénelle. Et pour défendre la cinquième, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, et Paul Melun, essayiste qui ne veut pas couper la tête du roi. Alors on va discuter de cette obsession française qu'ont tous nos politiques. On a recensé une vingtaine de candidats. Gaspard Koenig, est-ce que vous comprenez qu'ils soient tous un peu obsédés par cette élection?
Je pense que les gens réagissent en fonction du système d'incitation dans lequel ils se trouvent et que nos institutions rendent les politiques complètement fous. Parce qu'elles sont fondées sur l'idée de conquérir une espèce de pouvoir absolu suprême. Et c'est pour ça que l'homme politique et le parlementaire aujourd'hui n'est pas là pour gouverner. Son horizon n'est pas le gouvernement. Et donc son horizon n'est pas la réforme. Parce que vous remarquerez que dans ce système qui donne tout le pouvoir à un homme, en même temps, c'est un système extrêmement timide. Ça fait combien de dizaines d'années qu'on n'a pas eu de véritables réformes structurelles importantes, de gauche comme de droite, fondamentales en France? Non, parce que le président est censé incarner un peu tout le monde, censé faire plus de 50%, et donc vous êtes obligé d'être dans une posture où vous ne pouvez pas déplaire à plus de 50% des Français. Un système parlementaire où chacun peut, dans un parlement élu à la proportionnelle, faire représenter ses idées, faire porter ses idées, est forcément beaucoup plus divers et engendre aussi des programmes qui sont d'abord des programmes de fond et qui sont des programmes possiblement plus radicaux. Et là, à travers l'incarnation et la discussion sans fin sur les personnes dont on déplore évidemment les vices, les qualités et qui finissent toujours par décevoir, on obère totalement le débat de fond. On n'a quasiment plus de réel débat d'idées programmatiques en France.
Alors, on va entendre votre allié sur la question, Edwy Plenel, puisque vous parlez bien d'un monarque sans roi. C'est ça pour vous aujourd'hui, cette course à l'élection présidentielle?
On est une monarchie élective, mais je voudrais raconter une histoire, puisque je suis le plus vieux autour de ça, et qui concerne parce que la gauche. Parce qu'au fond, si nous sommes dans ce moment-là où, indépendamment du débat constitutionnel, on s'interroge sur la pratique, sur ce qu'ils en ont fait, les derniers notamment, ceux que vilipende Dominique de Villepin dans son dernier livre. Je pense à Sarkozy, je pense à François Hollande et je pense à Emmanuel Macron, puisqu'il dit au fond, avant, j'ai connu d'autres présidents qui avaient une autre stature. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation où celui qui a été élu en 81 sur une revendication démocratique de limiter l'abus de pouvoir présidentiel, d'insuffler de la démocratie, qui est François Mitterrand, a fait tout l'inverse. Je vous rappelle que c'est une présidence qui a duré 14 ans, le Second Empire c'est 19 ans, c'est le seul record, mais en tant que pouvoir présidentiel. Et puisque nous sommes le 11 juillet, je voudrais rappeler un anniversaire. Hier, c'était les 40 ans de l'attentat commandé par François Mitterrand, crime d'État, terroriste contre le mouvement écologiste Greenpeace, le Rainbow Warrior. C'est moi qui, avec d'autres, ai révélé ce mensonge. Il faut rappeler ce qui s'est passé. Mitterrand a totalement menti au pays, n'a jamais eu de compte à rendre, il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire, mais pire que ça, car vous ne le savez pas, vous l'avez tous oublié. Le 6 août 85, en profitant de cela et en perspective de la cohabitation, il a fait passer un décret augmentant le pouvoir de nomination du président, bien au-delà des figures régaliennes et des postes régaliens, pour se faire une petite armée. Donc, nous sommes dans une situation où un président peut faire du terrorisme d'État.
Du terrorisme d'État.
Bien sûr, un attentat tuant un civil sur un mouvement civil, comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Non, c'est un attentat.
Je défends
les exécutants, puisque j'ai révélé, y compris le poseur de bombes a fait son entretien sur Mediapart, qu'il agissait sur ordre. C'est un homme, un militaire tout à fait loyal. Et il s'appelle Jean-Luc Kister et c'est un colonel formidable de la DGSE. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous avez un pays qui est à la merci. Et demain, supposons que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou un autre prennent le pouvoir, qui est à la merci par ce pouvoir institutionnel totalement augmenté depuis 80
ans. En Italie, il y a Madame Meloni qui a été élue, il n'y a pas de président.
Mais il y a un président qui est gardien. Il y a un président qui est gardien de l'essentiel. Oui. Là, nous sommes à un président qui confisque tout le pouvoir.
Ça ne change rien à l'exercice du mandat de Giorgia Meloni. Mais moi, je voudrais juste, par réhabilité, mais défendre François Mitterrand sur ce point. C'est que François Mitterrand,
rapidement,
précisément...
Rapidement, parce que ce n'est pas notre débat aujourd'hui.
Oui, mais parce que c'est important, parce qu'il incarne effectivement ce présidentialisme à la française, François Mitterrand. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 80 et après, pendant 14 ans avec deux cohabitations, François Mitterrand saisit dans l'esprit profond du peuple de France, lui homme de gauche, une aspiration gaulliste, une aspiration, je dirais, gaulo-bonapartiste, qui existe dans l'inconscient collectif français, qu'on le déplore ou non. Et il fait corps avec cela, tout socialiste qu'il est, pour eh bien mettre en place ce modèle de gouvernance qui n'est ni fondamentalement gaullien, qui est peut-être gaulo-mitterrandien, et qui n'est pas la source de nos maux contemporains, qui est quelque chose
à mon sens,
a bien marché, puisqu'il a été réélu.
Je les rappelle, c'est donc déjà une vingtaine de candidatures en 2025, à deux ans de l'élection présidentielle. Anne-Charline Bézina, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter les mandats dans le temps, voire revenir à un septennat, pour effectivement que les politiques ne soient pas fous de leur réélection potentielle?
Alors moi, il me semble qu'il y a deux choses. Limiter le nombre de candidats, on a essayé à maintes reprises sous la Ve République. Je rappelle que la première réforme qu'on a eue de l'élection, c'était en 76, justement, on a augmenté le nombre de parrainages nécessaires, qui était de 100 pour passer à 500 en se disant on va limiter le nombre de candidats. Malheureusement, on en a 18 en 2002, on en a 16 encore. C'est évidemment une forme d'intoxication. Ce qui me semble être important, c'est de dire justement, vous parliez tout à l'heure de la question de la culture finalement d'appauvrissement qu'amène le présidentialisme. Mais changeons un petit peu de focal en regardant le Parlement. Ce qu'on a vu en 2024, finalement, c'est une élection législative qui ne donne plus, et en 2022, à mon avis, d'une certaine manière, qui ne donne plus sa majorité à son président. Parce que c'est, à mon avis, le grand tort de François Mitterrand en 81, c'est d'envoyer son programme des 100 propositions de gouvernement à l'Assemblée nationale le lendemain, par message de l'article 18, en disant « voilà votre programme de gouvernance ». Le président de la République n'a pas à avoir sa majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ce n'est absolument pas prévu par le texte de la Constitution. Et donc, quand le président de la République n'a pas sa majorité, eh bien, est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui tout le bilan écologique d'Emmanuel Macron décousu point par point par les oppositions, par l'Assemblée maelstrom que nous avons à l'heure actuelle ? Mais l'idée, c'est que une Assemblée nationale qui fonctionne, qui a la force de l'opposition, qui a une culture du compromis, qui arrive à faire quelque chose en notamment faisant force de proposition et en arrivant à voter ensemble. C'est pas par rapport au président de la République que nous l'avons pas. Nous étions face à un mur depuis 2024. Excusez-moi, mais nous ne l'avons absolument pas surmonté par le
unique.
Donc revenir sur un septennat unique, c'est pourquoi moi je défends cette réforme. C'est parce que je pense que l'oxygénation dont a besoin l'Assemblée nationale, c'est de déconnecter cette élection législative de l'élection présidentielle. La déconnexion des mandats, l'oxygénation démocratique, c'est évidemment la source de la Ve République et c'est là-dessus qu'il faut évidemment revenir.
Je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, rappelons pour les jeunes auditeurs que justement, et toujours penser, y compris contre ceux qui pensent transformer tout ça, mais qui en fait l'aggravent, c'est la gauche qui a défendu le quinquennat. Et le quinquennat, loin de donner cette respiration où, en effet, il y a une vie parlementaire indépendante du mandat présidentiel, et donc il peut y avoir des cohabitations, des surprises, des étonnements, elle a verrouillé. C'est-à-dire, le passage au quinquennat, c'est le passage, et là, je suis entièrement d'accord avec vous, quand j'entends le mot, y compris sur les médias, la majorité présidentielle, je suis choqué. Un député, il est député de la nation. Il n'est pas député du président. Il est là pour faire la loi et contrôler la façon dont le pouvoir exécutif applique la loi. Donc si on dit majorité présidentielle, ça veut dire qu'il ne contrôle rien. Et de fait, il ne contrôle rien, puisque s'il est dans la majorité présidentielle, il s'exécute et il circule. Il n'y a qu'à se souvenir de l'affaire Benalla et de la suppression sur ordre de François Mitterrand de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. De François Mitterrand, pardon.
D'Emmanuel Macron.
Excusez-moi.
Donc vous seriez pour tous passer à un mandat unique, revenir au septennat, ou est-ce qu'il y en a certains
favorable au septennat, non renouvelable. Et au bout des 5 ans, il y a des élections législatives qui agissent comme une sorte de mi-terme, qui permettent de voir si le président de la République a toujours une majorité pour gouverner. Et sinon, c'est cohabitation. Ça me paraît être une bonne respiration démocratique. Et que le président en exercice ne soit pas obsédé par sa réélection, ça me paraît assez sain en démocratie. On est typiquement dans le genre d'adaptation que pourrait souffrir la Ve République et qui ne dénaturerait pas la pratique gaulienne du pouvoir, selon moi.
Gaspard Koenig, toujours pour abolir ou un mandat unique, non, mais, ça vous irait
dire, d'un côté, abolir l'élection du président au suffrage universel, et y compris pour revenir d'ailleurs aux fondamentaux de la Ve République, pas forcément pour changer de République. Mais maintenant, si on propose rien en face, les gens vont dire à juste titre, on nous dépoussette du seul pouvoir qu'on a le sentiment d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire de voter pendant ce moment complètement christique, étrange, où la nation est censée faire corps. Et donc, il faut aussi mettre en place d'autres processus démocratiques qui permettent de catharsiser la démocratie, de la rendre plus quotidienne. Et donc, il y a les questions institutionnelles du Parlement, du président de la République, on en parle beaucoup, mais tout ça ne peut pas se dégonfler si on ne redonne pas énormément de respiration à la démocratie locale.
C'est le dogme de la Ve République. D'ailleurs, le référendum est un ADN.
Non, mais attendez, mais je ne parle pas du référendum national. Je parle de démocratie locale.
Pourquoi pas ?
Tocqueville nous dit, et les Suisses nous montrent, que c'est d'abord et avant tout dans la pratique du débat très local sur des sujets très concrets où on peut s'assembler, y compris en démocratie directe, qu'on apprend l'art de convaincre, qu'on apprend aussi l'art de perdre, qu'on apprend l'art du compromis, l'art de dire nous au lieu de dire il. Aujourd'hui, il y a un trou dans la route, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Si c'est nous qui décidons de la plupart de nos lois locales, ça change d'abord tout dans l'aménagement du territoire, dans la structure institutionnelle du pays qui va aujourd'hui dans le sens d'une centralisation totale, la fusion, les communautés, l'obligation de passer en communauté de communes, le rehaussement des compétences, etc., fait que, en fait, l'échelon local, il est en train de disparaître. Et c'est l'échelon qui, on le voit bien dans les sondages, Quel est l'homme politique qui plaît aux citoyens?
Le maire.
Mais le maire, il a plus de pouvoir.
Le maire, comme providentiel aussi.
Il a plus de pouvoir.
Ça défait un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais non, parce que par ailleurs, la Constitution nous donne la possibilité d'avoir des référendums locaux. Elle n'est quasiment jamais utilisée.
Il y en a eu à Notre-Dame-des-Landes.
Pourquoi? Parce qu'elle est à la main de l'exécutif.
Chers auditeurs, dites-nous si vous voudriez bien avoir un système de votation à la Suisse. Réagissez au 01 45 24 7000. On va revenir sur la déclaration de Dominique de Villepin que vous avez citée. Pour lui, la France n'a ni président ni premier ministre. Restez avec nous sur France Inter.
Chasing a kitten, but really I'm stressed. So this car get the whip, and I'm whipping, I'm whipping, I'm revving my engine. They sending me texts. If I don't reply, then they get the trip, and I'm copping a ticket. I'm getting some distance, blow me some kisses.
Sometimes I feel uncomfortable, so I. $5 to get a freak.
I need your freak.
Don't ever pass me the check, cause I'm a tweak.
I'm spending cash.
I'm a pit bull terrier off the leash.
Hold on.
Y'all think I'm ripping and rapping. I rap like it's fitness. I'm flexing off. I ain't getting specific. I'm getting some diamonds. If I'm feeling different, I'm busting my teeth. I can't go to the dentist. I'm making decisions with no consequences. Please don't call me shallow. I'm sensitive. Running away with these Benjamins. TSA like,
oh, it's him again.
Sometimes I feel uncomfortable.
C'était Duckworth, Escapiste.
France Inter. Le débat de midi.
On est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter, un an après la dissolution. Emmanuel Macron toujours aussi bas dans les sondages. La dissolution qui n'a pas eu l'effet de réunir les Français autour de la figure du président, c'est le moins qu'on puisse dire. On se demande aujourd'hui, eh bien, si Emmanuel Macron sera le dernier président avec un grand point d'interrogation. C'est évidemment une formule. Je suis autour de la table avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, qui veut conserver la cinquième, avec Paul Melun qui défend Emmanuel Macron. Edwy Plenel qui pense eh bien, qu'il faudrait en finir avec cette monarchie républicaine, et Gaspard Koenig qui lui veut abolir l'élection présidentielle. Voilà toutes les nuances de l'élection présidentielle.
Quel
programme. Et on revient sur cette déclaration de Dominique de Villepin qui a dit eh bien, il y a une dizaine de jours, la France n'a ni président ni premier ministre. Anne-Charlène Bézina, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un peu outrepassé sa fonction présidentielle? Est-ce qu'il a fait d'autres métiers? Si oui, lesquels?
Alors moi, j'aimerais bien qu'on considère que cette période de 2024 est une forme de pause sur laquelle on analyse tout ce qui va et tout ce qui ne va pas de notre 5e République, de manière à justement sortir de cette épreuve par le haut. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas de président et qu'on n'ait pas de Premier ministre, mais qu'on se soit un peu habitué à un président qui ait un Premier ministre, qui soit son collaborateur, je cite Nicolas Sarkozy dans le texte, parce que le président de la République qui préside et le Premier ministre qui gouverne, gouvernement qui gouverne, hein, c'est une formule de Jacques Chaban-Delmas pour la cohabitation, ça fait pas tant de mal à la France que cela. cela. La seule vérité, c'est plus qu'on a une Assemblée nationale qui est dans l'ornière aujourd'hui parce qu'elle est incapable de travailler, tout groupe confondu. Mais ça, c'est pas la faute du président de la République.
Absolument.
L'idée qu'il y ait un domaine réservé du président de la République qui soit uniquement consacré à l'international et qu'il soit là pour sentir le pouls des Français, c'est un art auquel il faut s'essayer avec goût et avec parcimonie. Donc, c'est difficile à incarner la fonction de président de l'article 5 de notre Constitution. J'ai publié une Constitution commentée et si je devais choisir un seul article, c'est celui-ci. Il est très méconnu. L'article 5 vous cite la figure d'un arbitre présidentiel. L'arbitre, alors, c'est Léo Hamon qui nous dit, c'est la figure même de l'équivoque, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais un arbitre ne joue pas. Un arbitre court avec les autres, mais ne joue pas. Donc, attention à ne pas confondre le président de la République avec l'omniscience qu'on a eue sous la 5e. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait un président de la République qui soit complètement disparu, autant que le Premier ministre. On s'apprend à faire autrement.
Vous n'avez pas cette impression autour de la table qu'Emmanuel Macron a outrepassé un peu ses fonctions en se faisant l'ambassadeur de, je ne sais pas, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Écologie, le ministre de l'Éducation. Non, Paul Melun ?
S'il ne l'avait pas fait, on le lui aurait reproché. Je pense que lui, comme du reste François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, ça a été un des premiers dont on a dit c'est l'hyper-présidentialisation de Nicolas Sarkozy, n'ont fait que répondre à une aspiration populaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose dans ce pays, des inondations et des maisons qui sont inondées, une épidémie de Covid-19, une guerre à l'autre bout du monde, tout le monde dit, y compris les éditorialistes sur les plateaux de télévision, mais que fait le président ? Va-t-il s'adresser à la nation ? Et les présidents, peut-être devraient-ils ne pas céder à cela ? Mais, quelque part, ils y sont aussi un peu contraints. Vox populi, vox dei, à un moment donné, le peuple français demande à ce que le président puisse donner une expression. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler de tout, tout le temps, et être un hyper-président total. Je trouve même qu'Emmanuel Macron a été assez équilibré sur le sujet. Il a un peu raréfié sa parole par rapport à ses prédécesseurs. Oui, je trouve. Il prend la parole sur des cas extrêmement graves. Ses prédécesseurs n'ont pas eu à gérer une pandémie mondiale. Ils n'ont pas eu une guerre aux portes de l'Europe, sur lequel je trouve que le président a été impeccable sur le soutien à Zelensky et qu'il a bien fait d'utiliser ce domaine réservé en la matière pour aider nos amis ukrainiens face à l'invasion de Poutine. Donc, je pense que véritablement, il y a ce rôle-là et qu'il ne faut pas lui dénier ce rôle et qu'il est important, y compris au plan de la démocratie et de ce que veulent les Français de leur président.
Mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que le pouvoir se concentre et après on s'étonne que les gens demandent des comptes à ce pouvoir. Mais il faut faire tout l'inverse, il faut lâcher la bride. En fait, c'est quoi notre idéal de société ? Est-ce que c'est de disperser au maximum le pouvoir dans la société ? Ou est-ce que c'est de tous se rassembler dans une espèce de culture très homogène, on en parlait, derrière un chef qui est censé nous incarner ? Et je trouve que une belle illustration de ce cercle vicieux, ça a été l'épisode des Gilets jaunes. Vous aviez des gens, la seule proposition vraiment clairement assumée par les Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative populaire. Donc c'était quelque part une révolte institutionnelle, en disant « on veut reprendre le pouvoir ». Qu'a fait Emmanuel Macron pour mettre fin à cette crise, avec beaucoup de talent d'ailleurs ? Ce qu'il a été, il a fait son tour là.
Grand débat national.
Voilà, ces débats. Et là, on le voit dans une pièce, avec 100 personnes, faire exactement ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire incarner absolument le présidentialisme total, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire que vous avez des citoyens assemblés qui lui posent plein de questions, et lui, tout seul, sans notes, sans conseiller, sans ministre, il répond à tout. Sur les questions de voirie, sur les questions de géopolitique, sur les questions de santé. Et en fait, en faisant ça, quelque part, il alimente les causes qui ont provoqué
cette
révolte.
Il a désavancé la crise aussi, comme ça.
Edoui Plenel.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Caspar Koenig, et tout ça a abouti à quelques catastrophes. Je pourrais donner juste un exemple, qui est le choix solitaire d'Emmanuel Macron sur la Nouvelle-Calédonie, qui a précipité la Nouvelle-Calédonie dans une grave crise. Je pourrais penser aussi au choix solitaire d'Emmanuel Macron entre le Maroc et l'Algérie à l'été dernier, qui nous a précipité dans une crise avec l'Algérie. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Ce que je veux dire, et notre discussion ne doit pas se faire indépendamment du climat mondial, international. Les vents qui soufflent ne sont pas des vents démocratiques, ce sont des vents autoritaires, identitaires, avec des forces de droite extrême qui sont profondément organisées au plan international et qui vont jouer sur la présidentielle prochaine, qu'elle vienne du milieu de Trump ou du milieu de Poutine, car maintenant nous savons que l'hydre est à deux têtes. Et là, je nous trouve, par rapport à ceux qui défendent un peu et font l'éloge de cet hyper-présidentialisme, et la dégénérescence est évidemment commencée avec Nicolas Sarkozy et n'a cessé de s'accentuer, je trouve naïf et inconscient. Nous sommes dans une situation où un pouvoir trumpiste et poutinien peut dans cette roulette russe qui est le second tour de la présidentielle, à quelques milliers de voix près, s'emparer de ce bunker présidentiel, et contrairement à toutes vos lectures constitutionnelles, eh bien vous verrez à ce moment-là que cette personne, comme Trump aujourd'hui, a tous les pouvoirs et aura tous les pouvoirs d'imposer.
Et regardez,
vous avez parlé du référendum, regardez le projet du Rassemblement National de référendum sur l'immigration. C'est un référendum pétainiste de retour à une idéologie de la préférence nationale au cœur, mettant à bas la culture de l'égalité qui est au fronton de la République.
Pardon de répondre sur le plan des institutions, là où vous m'interpellez sur les institutions. Je ne suis pas sûre que la question de l'élection roumaine ou polonaise n'ait pas été manipulée par des forces qui sont, comme vous le dites, un peu obscures. Et pourtant, nous sommes dans des régimes pleinement parlementaires. Donc, ça n'est pas la question de la figure du président. Oui, mais enfin bon, les élections parlementaires sont quand même aussi loin d'être à l'abri de toute influence. Et on l'a bien vu sur la... Excusez-moi, on l'a bien vu sur la dernière campagne, et on le voit bien, même au niveau des élections locale, tout est facilement manipulable et c'est loin d'être de la naïveté. La question de savoir si aujourd'hui la monopolisation des forces autour d'un président est dangereuse, oui bien sûr elle l'est. Encore une fois, un président seul avec une assemblée qui ne le suit pas, une assemblée qui est remusclée avec une proportionnelle, avec des groupes qui savent travailler ensemble, elle peut tout à fait contrer la volonté d'un seul. Et encore une fois, le moment autoritaire ne dépend évidemment pas de la nature du régime mais de la volonté.
Supprimer la fonction de président de la République ne nous sera d'aucun secours face à la montée du populisme et des nations. Et la plupart des pays européens, y compris les régimes parlementaires, font face à une montée du populisme, à une montée du nationalisme et à une montée des discours de démagogie. Nous ne sommes pas ni plus ni moins que les autres touchés, donc ça n'a rien à voir avec nos institutions.
On aura évidemment l'occasion de revenir sur cette montée des populismes dont vous parlez, Paul Melun, mais pour l'instant, on va s'arrêter là et s'accorder sur la solitude du pouvoir. Et au contraire, sur ce plateau, il y a eu beaucoup d'intelligence collective. Merci à Anne-Charlène Bézina, Gaspard Parkenick, Paul Melun, Edoui Plenel. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à mon équipe, Aurore Mansip, Johan Duval, nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi. À la réalisation, c'est bien sûr Riyad Kera, à la programmation musicale Valentine Chédebois et à la technique aujourd'hui, c'était Gaspard Guy Bourget.